Bonjour Fabienne Keller.
Bonjour.
La France assure donc la présidence de l'Union européenne depuis ce 1er janvier. Entre la crise sanitaire qui n'en finit pas et l'élection présidentielle qui aura lieu dans 3 mois et demi, pensez-vous que cette présidence française pourra être vraiment constructive ?
Bien sûr, d'abord parce qu'elle a été préparée depuis de longs mois par l'administration française, par sa représentation permanente, c'est-à-dire les fonctionnaires qui sont présents à Bruxelles aux côtés des institutions européennes, et par les ministres qui ont préparé leurs contacts avec leurs homologues européens. Je voudrais saluer à cet égard le travail formidable de Clément Beaune. Les dossiers sont très avancés, chacun, par exemple, la question du Green Deal, du pacte vert. Il s'agit d'avancer sur la négociation des textes permettant de rendre plus durable notre industrie, notre agriculture, nos transports. Tout cela est très préparé, comme sur le dossier migratoire auquel les Français sont très sensibles. Le président Macron, depuis de longues années, en fait, depuis le début de son mandat, affiche un volontarisme qui va concrétiser pour faire avancer le pilotage politique de Schengen.
La question de décaler cette présidence française pour éviter le télescopage avec le calendrier électoral en France et donc la campagne présidentielle, pour vous, cette question n'avait pas lieu d'être ?
Franchement, c'est plus le débat.
Ah bah ça, aujourd'hui, non, c'est vrai. Mais enfin, est-ce que pour autant il était illégitime il y a quelques mois quand la question s'est posée et qu'un certain nombre de responsables politiques ont dit qu'il serait quand même plus raisonnable et plus cohérent et sans doute plus efficace de faire ainsi ?
Alors, je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que nous sommes 27 États membres. Donc, il y a des élections en permanence dans les États, au niveau national, au niveau régional. Ce n'est pas très raisonnable de tenir compte des calendriers politiques nationaux. Et par ailleurs, la présidence française est une formidable opportunité. Je crois qu'il faut clairement en profiter, s'inscrire dans la lignée des grands bâtisseurs de l'Europe et relever les défis qui ne manquent pas sur le climat, je l'ai évoqué, sur le numérique, sur la réindustrialisation et sur le rebond après la crise sanitaire avec ce plan de relance qui est bien engagé mais qu'il faut maintenant poursuivre et amplifier.
Alors vous avez évoqué quelques-uns des sujets. Est-ce que l'agenda européen du président de la République n'est pas trop chargé précisément ? Est-ce qu'il ne voudrait pas mieux se concentrer peut-être sur quelques priorités pour avoir plus de chances de les faire vraiment aboutir ?
Alors, il y a un certain nombre de priorités fortes.
Oui, des grandes thématiques, mais après, il y a beaucoup de sujets.
Des grandes thématiques, mais il faut avoir conscience que le travail, qui est un travail quand même plutôt dans la durée, se fait au niveau des conseils des ministres, donc c'est ces ministres qui vont être impliqués. Barbara Pompili sur le pacte vert, Madame Borne sur la question tellement importante des salaires minimums et des droits sociaux en Europe, Gérald Darmanin sur les questions de sécurité, Florence Parly sur la question de la défense commune et le sommet sur la défense qui est programmé au début du printemps. Bien sûr, là, le président Macron pour la défense sera également présent et puis il y aura les conseils européens, mais il n'est pas tout seul. Et puis, nous, en parallèle au Parlement européen, nous portons ces priorités largement partagées par une majorité au Parlement européen, ce qui permettra aussi de faire avancer les dossiers, puisque, je le rappelle, nous légiférons ensemble, les ministres d'une part et le Parlement européen. Donc, ce travail doit être conjoint. Donc, une dynamique qui est créée et dont l'Europe a besoin en rebond de cette crise qui nous a mis en grande fragilité.
Je rappelle quelques-uns des chantiers que le président de la République veut engager. La question de la règle budgétaire, le SMIC européen, le service civique européen, la souveraineté, les migrations, la régulation des géants du numérique, l'instauration d'une taxe carbone sur les produits importés en Europe. Ça fait donc beaucoup de travail. Et pour vous, est-ce qu'il y a des dossiers qui sont plus urgents que les autres ?
Oh, ils sont tous importants dans des domaines très différents. L'Europe a de larges compétences, mais est aussi un levier efficace, comme elle l'a montré pour l'achat coordonné des vaccins dans certaines politiques. Par exemple, la politique de réindustrialisation est essentielle. Elle est portée par le commissaire Thierry Breton. Nous avons pris conscience à l'occasion de la crise que toute une série de secteurs stratégiques avaient disparu du continent européen. Il en va ainsi de la production d'un certain nombre de spécialités pharmaceutiques, du numérique qui nous permet de communiquer en période de confinement, mais qui porte aussi beaucoup d'informations et de dossiers importants. Il y a également la question de notre jeunesse et de son avenir. Donc 2022 sera l'année européenne de la jeunesse. Donc ces sujets sont tous importants, sont tous en cours, en train d'avancer. Mais la présidence française, c'est une occasion de les accélérer, pour certains, de les boucler, comme la régulation sur le marché du numérique ou la fiscalité tant attendue sur les GAFA. Donc, une présidence dynamique. J'ai envie de dire un effet d'entraînement. Hein. Il ne faut pas se dire qu'il y a trop de travail. Non, au contraire. Il y a une cohérence, une dynamique d'ensemble et une vision européenne que le président porte depuis son discours de la Sorbonne et qu'il partage depuis le début de son mandat avec ses homologues en Europe.
Vous avez parlé, Fabienne Keller, de l'achat des vaccins par la Commission européenne. Et à ce sujet, est-ce que vous seriez favorable à un peu plus de transparence sur les contrats négociés entre la Commission et les grands laboratoires pharmaceutiques ?
Alors, il y a une mise à disposition des contrats avec certaines clauses de prix qui étaient masquées pour nous, les
députés
européens.
Avec beaucoup d'informations qui étaient marquées.
Il faut... Il faut avoir conscience que la Commission négocie avec des big pharma, hein, des entreprises mondiales qui sont elles-mêmes en concurrence, que le résultat est absolument remarquable. Nous avons d'abord obtenu un vaccin et pas plusieurs, en nombre suffisant, ce qui permet de couvrir toute la population européenne jusqu'à 3 doses et d'en donner beaucoup. L'Europe est le premier acteur mondial en termes de dons vers les pays du Sud et en particulier en Afrique. C'est ma collègue Chrysoula Zarakopoulou qui co-préside COVAX, la structure qui assure ses dons. C'est une priorité pour l'Europe. C'est vrai que le virus, on pourra le contrôler que si il est contrôlé au niveau de la planète. Donc certes, il faut continuer à demander transparence et plus d'informations sur les contrats, mais avoir conscience aussi qu'au moment où ils ont été négociés au printemps 2020, on n'avait pas encore du tout de certitude sur le fait qu'il existait un vaccin. Et il était important de pouvoir négocier dans une situation de concurrence extrêmement forte entre les entreprises pharmaceutiques, plusieurs vaccins, de manière à sécuriser notre approvisionnement. On a vu d'ailleurs que certains n'ont pas abouti.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui, depuis le début de la crise sanitaire, n'a pas vraiment abusé de l'optimisme, a estimé hier que la crise du Covid que nous subissons actuellement, cette cinquième vague, serait peut-être la dernière. Dans cette hypothèse, est-ce qu'il était impérieux d'adopter à la hâte un pass vaccinal ?
Il est clair que le vaccin est un outil très efficace pour éviter les formes graves du Covid et limiter, sans l'annuler, mais limiter la transmission. À partir de là, le vaccin est un outil qui doit être tout à fait priorisé. Des personnes compétentes au sein du Conseil scientifique auprès du président ont fait cette recommandation. Elle est suivie par le ministre de la Santé, qui a assuré un remarquable pilotage de cette crise. On est en monde incertain, hein. On découvre les caractéristiques de ce virus mutant, Omicron. On ne connaît pas tout à fait encore sa létalité, mais il serait plutôt moins grave.
Oui, et donc c'est les informations dont
le ministre prend les mesures qui lui semblent adaptées à ces informations disponibles à un moment donné.
Merci Fabienne Keller, bonne journée.